politique avec des politiques, mais pas que, tel est le miracle que le Ravi réalise tous les mois sur les ondes de Radio Grenouille. Bienvenue pour une nouvelle Grande Tchatche, l'émission du journal régional Pas Pareil. Au micro pour vous servir, Michel Guéraud, le rédac-chef du Ravi. Et aujourd'hui, avec nous, dans ce studio, Rachid Zerouki. Avant de grandement tchatcher, faisons rapidement connaissance. Pour les 66 000 abonnés qui vous suivent sur Twitter, vous êtes Rachid l'Instit. Sur votre compte, des gazouillis bien sentis, des punchlines, des clins d'œil, mais jamais rien de trash. Vous y causez, sans pédantisme, de pédagogie, d'échecs scolaires, d'éducation. Vous y témoignez aussi, souvent avec humour, de votre engagement professionnel. Celui d'un jeune professeur à Marseille en SECPA, une classe qui accueille les collégiens en rupture avec le cursus classique. Et vous publiez maintenant, à 28 ans, chez Robert Laffont, Les Incasables. C'est un essai incarné qui retrace à la fois votre parcours et celui des élèves auxquels vous vous êtes juré de redonner un peu ce que l'école vous a offert. Vous êtes né en 92 à Fès, d'un père et d'une mère marocains. Enfant, vous découvrez que grâce à un arrière-grand-père algérien, vous êtes français de naissance. Vous voilà propulsé, toujours à Fès, dans une école française. Vous êtes confronté à une nouvelle langue et à des gosses de riches bien différents de ceux du quartier populaire où vous appreniez en arabe l'histoire et la religion du Maroc. L'autre grande rupture, c'est, à 14 ans, votre départ en famille vers la France. Vous vivez alors dans un HLM de Cavaillon, dans un de ces quartiers où la République relègue les plus pauvres. L'école est votre boussole, vous aimez y apprendre. Elle sera pour vous toujours synonyme de réussite. Ce dont vous refusez pourtant de tirer la moindre gloire. Car, même avec vos origines sociales modestes, boursiers échelon 7, vous avez pu compter avec un fort héritage culturel. Celui de parents instruits, aimants et aidants. Diplômé, vous débutez à 23 ans à Marseille et faites le choix, un peu par conviction, un peu par pragmatisme, de postuler en SECPA. Vous êtes nommé dans un collège au Cayolle, dans l'Est marseillais, avec des élèves habitant, pour beaucoup, à la cité Herbel. Et vous voici face à des sixièmes très différents des clichés qui collent à la peau de ceux qui échouent à l'école. Mais ils sont bel et bien confrontés à d'immenses difficultés qui percutent vos certitudes, vos théories et votre pratique pédagogique. Aujourd'hui, vous enseignez à Saint-Barnabé, au collège d'Argus Milhaud, toujours en SECPA et dans l'Est marseillais. Mais l'histoire de Selma, Chaïma, Damien, Caïs, Nour et les autres, celle de vos premières petites batailles quotidiennes pour une école publique bienveillante et inclusive, vous a marqué. Grâce à votre livre, cette histoire est désormais aussi un peu la nôtre. Une réaction à ce petit portrait, source ravie.
Écoutez, c'est impressionnant d'entendre ainsi sa vie racontée avec tant de justesse.
J'ai beaucoup paraphrasé en fait votre livre.
Non, mais écoutez, c'est dit avec vos propres mots. C'est assez particulier à vivre comme expérience d'entendre sa vie comme ça. En tout cas, c'est tout juste. Je me suis moi-même revu les images de mon enfance, des débuts de ma carrière pendant que vous faisiez ce portrait. Donc voilà, effectivement, là je suis enseignant, toujours en SECPA, au collège d'Arus Millau. J'y étais pas plus tard que ce matin. Et nous voilà pour en discuter.
Tout à fait. Alors peut-être, puisque c'est comme ça que vous démarrez votre livre et vous partez de vous en fait, de votre expérience, mais ça fait sens hein, par rapport à ce témoignage que vous apportez concrètement de votre pratique professionnelle et des réflexions qui sont les vôtres par la pratique. Mais vous partez de votre expérience et je le disais là dans le petit portrait, mais ce que vous voulez surtout pas, c'est qu'on fasse de vous une espèce de figure de la réussite scolaire et de la méritocratie à la française. Vous voyez, tout le monde peut y arriver. Pourquoi ?
Voilà, c'est exactement ça. Alors d'abord, par rapport au fait que je pars toujours de mon expérience personnelle, ça s'est imposé au fil de l'écriture. Ce livre, il a commencé à la troisième personne. J'ai commencé à l'écrire de façon désincarnée parce que j'étais assez mal à l'aise avec l'idée de me mettre en avant, de raconter des choses personnelles. Donc voilà, j'ai essayé de distancer un peu la chose et je voyais qu'il manquait quelque chose. Et à la maison d'édition, ils m'ont dit, voilà, ça serait tellement mieux que ce soit incarné par vous-même, de parler à la première personne, de vous engager. Et je l'ai fait un peu en me forçant. Ça, c'est quelque chose qui est un peu contre ma nature, contre ma personnalité. Mais ça apporte beaucoup, je crois, de rester terre à terre, de partir de ses propres expériences pour aller vers la théorie, pour questionner ce qui s'écrit dans les sciences de l'éducation, dans la pédagogie, par rapport à ce que je vivais quotidiennement. En fait, c'est vraiment partir du réel pour interroger la théorie et toujours revenir sur le réel, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Je crois que ce que j'ai à apporter vraiment modestement au débat public sur l'école, sur les questions de pédagogie, de didactique, c'est vraiment mon expérience de terrain, ma façon de voir les choses. Donc, c'est là où je voulais vraiment apporter quelque chose. Et c'est vrai que je parle aussi de ma vie, de mon enfance au Maroc, de mes premiers pas à l'école de la République à Gavaillon. Et ça, c'était vraiment, comme vous dites, avec l'objectif de ne pas être érigé en symbole de la méritocratie. Parce que moi, j'estime avoir finalement répondu au strict minimum de ce que je pouvais faire. Je suis enseignant, mon père était enseignant, donc voilà, je suis dans la reproduction sociale, dans ce qu'elle a de moins étonnant. Et donc voilà, je voulais vraiment insister sur ça pour dire que ce livre n'est pas celui d'un transclasse ou de quelqu'un qui veut partager l'histoire de sa réussite. J'ai beaucoup de respect pour les transclasses, pour ceux qui empruntaient l'escalier social, et donc c'est pour ça que je voulais dire que je n'en fais pas partie.
Qui veut peu, c'est un cliché.
Absolument. Là, je crois que j'ai même pas beaucoup insisté sur ça dans le livre, parce que je pense que c'est quelque chose qui est passé aujourd'hui dans les idées. La sociologie de l'éducation le démontre de façon assez claire. Et puis, voilà, moi j'en ai parlé en disant qu'en SECPA, les élèves que j'avais devant moi étaient pour la très grande majorité des enfants d'ouvriers, des enfants de chômeurs, que ça se voyait, que c'était clair. Et finalement, j'ai même pas eu besoin d'apporter des chiffres. C'est mon regard qui parlait.
Dans le livre et sur votre expérience de l'école marocaine, hein, la petite enfance, vous dites déjà quelque chose une phrase qui vous conduit encore, hein, c'est-à-dire l'institution scolaire ne maltraitait que ceux qui avaient le plus besoin d'aide. Et ça, on retrouve ça dans l'école de la République française.
Exactement. Quand j'ai dit ça, je parlais vraiment de l'institution de façon générale, parce que il y a beaucoup de points communs entre l'institution marocaine et l'institution française, si bien que quand je parle d'institution dans les livres, je parle vraiment d'école et pas spécifiquement d'école de la République. Donc quand je parle de maltraitance envers ceux qui ont le plus besoin d'elle, c'est vraiment l'école universelle, j'allais dire. Après, ce sont des formes de maltraitance qui sont très différentes. Moi, je parle aussi des violences physiques que j'ai observées. Le livre commence par ça, d'ailleurs, avec le souvenir que j'ai d'un camarade, d'un ami qui se faisait littéralement tabasser par le directeur de mon école primaire parce qu'il n'avait pas apporté les protège-cahiers demandés par la maîtresse. Et c'était voilà, quelque chose qui se faisait dans le hall de l'école assez régulièrement, dans le hall, pour que ça résonne assez, pour que ça fasse peur à tout le monde.
On est dans les années 90, hein, ça ne remonte pas très très loin.
Hein. Exactement, c'est
ça. Rappelons, vous avez 28 ans, donc voilà, c'est une histoire récente.
Voilà, je suis né en 92, donc l'école pour moi, ça a commencé en 94, 95. C'était à l'école Al-Massar, l'école de mon quartier à Fès. Et voilà, c'est ça le souvenir que j'en garde aujourd'hui, parce que, comme je le dis, j'ai certainement appris des choses très importantes. J'ai appris à lire dans cette école, j'ai certainement appris des poèmes, j'ai certainement appris la grammaire, l'arabe, le français. Les cours du matin, c'était en arabe, ceux de l'après-midi, c'était en français. Et pourtant, voilà, le souvenir le plus prégnant, c'est celui de cette violence qui efface tout sur son passage.
Alors, vous enseignez en SECPA, c'est ce qu'il racontait dans Les Incasables, et peut-être dire deux mots quand même, parce qu'on a rappelé que c'était voilà, une classe pour ceux qui n'étaient pas dans le cursus classique, mais comment qualifier un peu cette filière ?
C'est vrai qu'on en a rappelé. Je vis tellement là-dedans que j'ai l'impression que c'est compris par tout le monde ce qu'est la SECPA, et bien sûr que non. La SECPA, c'est la section d'enseignement général et professionnel adapté. Très concrètement, ce sont des élèves qui sont orientés vers cette section professionnalisante à partir de la classe de CM2. Donc en CM1, CM2, on commence à repérer les élèves qui sont en difficulté scolaire, voire en grande difficulté scolaire. Et on va rédiger un dossier pour dire que ces élèves-là doivent avoir une scolarité adaptée. Scolarité adaptée, ça veut dire des classes à effectifs réduits, ça veut dire des objectifs personnalisés, ça veut dire, ben, forcément, même si ça ne s'est pas dit clairement, mais ça veut dire une scolarité beaucoup plus courte. Le but de la SECPA, c'est d'avoir le brevet professionnel pour ensuite aller dans un CAP, voilà, continuer ses études 2 ans, et puis généralement à 18 ans, c'est terminé. Donc c'est ça aussi la SECPA, ce sont des élèves qui sont destinés à des études très courtes et qui suivent pour ça donc une scolarité adaptée.
Et quand vous êtes engagé dans cette filière, je le rappelais, hein, c'était mis par conviction, mis par pragmatisme, hein, pour avoir une classe complète dès votre première affectation. Vous aviez des représentations en fait sur ces élèves, vous les imaginiez par exemple assez violents, assez turbulents?
Oui, c'est une représentation pardon, que j'ai construite en dialoguant avec les collègues, avec les amis. Moi, voilà, le but, c'était d'avoir mon concours pour avoir ma classe. Je voulais des cycles 3 parce que c'est une classe qui m'allait bien, les CM1, CM2, parce qu'on pouvait aller dans les choses un peu plus en profondeur que les CE1, CE2. Et puis, j'imaginais que cette classe allait être dans un quartier plutôt populaire pour rester un peu en accord avec mes convictions, parce que j'estime que c'est dans ces terrains-là que j'ai des choses à apporter. Et voilà, quand vous débutez dans l'éducation nationale en tant qu'enseignant, après avoir tout juste reçu le CRPE, vous n'avez pas tellement le choix, en fait. Vous pouvez aller dans une école primaire à mi-temps, voire à quart-temps. Il y en a qui sont dans une école le lundi, dans une autre le mardi, dans une autre le mercredi, jeudi, et puis ça change de semaine en semaine. Ou alors vous faites des années en tant que brigade, en tant que remplaçant, et vous n'avez pas du tout votre classe à vous. Vous pouvez faire un remplacement d'un jour, puis un autre de 3 mois, et c'est au jour le jour. Et je voulais absolument éviter ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime la stabilité. Voilà, je suis assez vieux dans ma tête. Et donc voilà, moi je cherchais à avoir mon lieu de travail où je vais tous les jours. Et ce qui s'offrait à moi comme possibilité, ben, c'était cette classe, la SECPA. Parce que j'avais regardé un peu sur les statistiques des syndicats et je voyais que ce sont des postes qui partaient à un point. C'est-à-dire qu'en étant débutant, on peut demander une classe de SECPA et on l'a. Ou alors ce sont des classes qui partent pas, en fait. Arrivé le jour de la rentrée, ben on peut appeler le collègue qui n'a pas eu de poste pendant le mouvement et lui dire « bon ben vous êtes affecté là ». Et puis il va dire « mais c'est quoi ça la SECPA, je ne connais pas ». Et moi-même, je ne connaissais pas la SECPA. Je ne connaissais pas, on ne m'en a pas parlé pendant la formation. Donc je me suis renseigné un peu vite fait sur Internet, j'ai tapé SECPA, j'ai essayé de me renseigner. Et c'est là où je me suis construit cette vision de la SECPA, c'est-à-dire des jeunes en grande difficulté scolaire, certes, mais surtout des jeunes violents. Voilà, on m'a fait cette blague de dire « ah mais est-ce que tu as pris, est-ce que tu as pensé à prendre ton gilet pare-balles avant d'aller là-bas ? Voilà, ce sont des gros durs, est-ce que tu es sûr d'avoir les épaules ?» Et donc voilà, j'avais cette image.
Vous êtes tombé sur une série aussi, une série là, qui est sur les méthodes de recherche, SECPA, qui s'appelle comme ça ?
Voilà, les SECPA sur YouTube, alors voilà, vous pouvez aller voir ce que c'est, ou alors vous pouvez me faire confiance, je vais vous raconter, ça évitera de leur donner des vues, parce que je ne suis pas très favorable au fait de...
Bourré de clichés, c'est ça pour vous ?
C'est bourré de clichés, c'est peut-être pas mal intentionné, le but c'est juste de faire rire les spectateurs, mais ça porte préjudice à mes élèves. Moi je considère en tout cas que c'est blessant et que ça a des conséquences. Parce que dans cette série, on voit des jeunes qui sont vraiment dépeints comme des abrutis. On voit un professeur hyper autoritaire qui va aller les prendre par le col, leur gueuler dessus parce qu'ils ne comprennent que les coups, ils ne comprennent que la violence. Et c'est pas ça du tout, c'est très loin de la réalité. Alors certes, c'est de l'humour, je comprends bien. Et voilà, après on rejoint le débat, est-ce qu'on peut rire de tout, nanana. Mais moi ce que je vois, c'est que mes élèves souffrent de cette représentation qui est véhiculée sur eux, parce qu'ils ne sont pas ces jeunes qui sont violents, bêtes, ce sont des jeunes en difficulté scolaire. Et voilà,
moi, vous dites même ce qui les caractérise peut-être avant tout, c'est la fragilité.
Je raconte le premier jour où je suis arrivé en SECPA et je raconte le fait que mes élèves ne se rangeaient pas là où ils devaient se ranger. Et très vite, j'ai compris que ce n'était pas pour gratter quelques minutes de récréation, mais vraiment parce qu'il voulait se soustraire au regard des autres. Il ne voulait pas assumer le fait d'être des SECPA. Parce qu'un élève qui est orienté en SECPA, c'est pas un élève qui est orienté en SECPA, c'est un SECPA. Ça devient son identité. C'est une identité qu'il traîne partout, même quand il sort du collège, c'est voilà, Enzo, le SECPA. Et donc cette étiquette, elle peut faire mal. Moi, je vois, parce que j'ai des classes sur plusieurs années, j'ai des sixièmes que je suis parfois jusqu'à la troisième, et donc je vois l'évolution psychologique, comment ils vivent les choses, et je vois que ça peut avoir des conséquences néfastes sur eux, ce délire de se moquer des SECPA. Parce que c'est pas rare qu'on me demande en classe pourquoi est-ce qu'on se moque de nous, ou alors voilà, de se cacher par rapport aux autres. Et voilà, donc je vois les conséquences directes de ces clichés qu'on véhicule sur les SECPA.
Alors, on vient de dire que la méritocratie, vous n'y croyez pas. Pour autant, le déterminisme, l'idée que tout est plié, que ces jeunes-là, c'est foutu pour eux, finalement, les jeux sont faits. À la fois, les chiffres ne sont pas très réjouissants sur, finalement, quel va être leur avenir scolaire et derrière professionnel. Mais par contre, pour vous, le déterminisme, non. Enfin, on peut, c'est pas une fatalité.
C'est pas une fatalité. Je crois que on a en tant que professeur une marge de manœuvre qui est ce qu'elle est. Elle n'est pas énorme. C'est pas le métier où on peut absolument tout faire, où on a la main mise sur le devenir de chaque élève. Mais il y a des ouvrages en sociologie aussi qui montrent que une rencontre positive, ça peut effectivement tout changer par rapport à certaines destinées. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut dire les règles du jeu? Est-ce qu'il faut étaler aux élèves dès le plus jeune âge, dès le collège, ces statistiques qui sont effectivement désastreuses? Concernant la SECPA, elles le sont encore plus parce que j'ai des élèves qui arrivent en 6e, qui veulent faire avocat, médecin, etc. Et à ce moment-là, voilà, se pose la question de est-ce qu'on leur dit que c'est extrêmement rare, que ça relève du miracle, de l'accident sociologique, qu'un élève inscrit en SECPA devienne avocat ou médecin? Ça arrive, mais est-ce qu'on leur dit que c'est pratiquement déjà joué, que ça ne va pas se finir comme ça? Moi, je suis d'avis que non, tout simplement parce que je ne suis pas capable de dire comme ça à un élève de 6e, voilà quelles sont tes chances de réussite, voilà quels sont les systèmes de domination qui s'exercent sur toi. Je préfère, en fait, c'est un dilemme, il n'y a pas de réponse juste ou fausse. Je préfère laisser les rêves parfois mourir à petit feu plutôt que les tuer moi-même brutalement dès la classe de 6e. Je pense que c'est moins pire. Je ne dis pas que c'est meilleur, mais c'est moins pire. C'est ma façon de faire, en tout cas, avec les élèves que je juge pas assez solides pour encaisser les statistiques liées aux inégalités sociales.
Alors, en France, les cafés sont fermés en ce moment, les bars, etc. Et donc, les discussions habituelles au comptoir, là, tout le monde a un avis d'habitude sur la pédagogie, sur l'école, sur ce qu'il faudrait y faire, pourquoi ça ne marche pas. Et donc, forcément, vous pratiquez, mais vous aviez aussi appris des choses, des choses théoriques. Et puis, quand vous arrivez, et vous arrivez plutôt... avec des valeurs, on va dire, vous êtes pour partisans d'une pédagogie ouverte, non autoritaire. Et c'est pas simple, en fait. Vous vous rendez compte qu'il y a la théorie et la pratique.
C'est pas simple. Alors, je précise que je suis toujours pour une pédagogie qui évite l'autoritarisme, qui met l'élève au centre de son apprentissage. Ce sont des théories qui me plaisent beaucoup. Ce sont les théories de Freinet, bien sûr, de Paulo Freire, que j'ai lu avec sa pédagogie des opprimés, qui est extrêmement inspirante. C'est aussi ce qu'a développé quelqu'un comme Montessori, même si voilà, c'est pas quelqu'un que je prends pour exemple étant donné son parcours politique. Donc voilà, je préfère me référer à Freire. Voilà, ce sont des idées qui m'inspirent, en fait. Le fait que la pédagogie idéale, c'est celle qui met l'élève au centre de son apprentissage, c'est celle qui lui donne les clés pour pour finalement construire son propre chemin, pour créer sa propre vérité, pour développer un esprit critique qui lui permette ensuite de trouver sa place en tant que citoyen, de trouver sa place aussi politiquement. C'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, c'est très lié à l'école, c'est fondamental.
Mais, et c'est remis en cause hein, par au plus haut sommet de l'État.
Bien sûr, c'est plus que remis en cause. D'ailleurs,
actuellement
voilà, on a des gens qui suivent la pédagogie de Freinet aujourd'hui qui sont remis en question systématiquement. Moi, ce sont des idées qui me plaisent beaucoup, que j'ai essayé vraiment de mettre en place dès le début. L'autonomie, c'est quelque chose qui m'est très cher. Donc, par exemple, vous avez quelque chose comme le raisonnement scientifique. J'avais fait mon concours en fait sur ça. J'avais créé une séquence pédagogique sur les volcans où il s'agissait vraiment de créer son propre apprentissage. Donc, l'idée, c'était vraiment de mettre l'élève face à une situation problème, lui dire voilà, un volcan est né quelque part en Équateur, et donc à toi d'essayer de comprendre comment est-ce que ça se produit, comment se produit un cône volcanique, comment se produit une éruption. Et puis, je mets aux élèves des documents pour essayer d'avoir des hypothèses. Et puis, ils doivent formuler des protocoles d'expérimentation pour vérifier leurs hypothèses. Et ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné au départ. Parce que moi, au départ, en tant que stagiaire, j'étais au Chartreux. L'école des Chartreux, c'est une école qui est assez mixte socialement. J'avais des élèves qui étaient vraiment favorisés. Et alors, voilà, ça fonctionnait bien. Ils étaient plein de questions. Il me suffisait de dire, allez, vous voulez savoir quoi sur les volcans? Et puis les questions pleuvaient. C'était vraiment autre chose.
Ce sont les élèves que vous appelez les pépites, les éponges. Hein,
exactement, les pépites, les éponges. Alors, ce sont des élèves avec qui je prends énormément de plaisir. Parce que qu'on fasse de la conjugaison ou de la grammaire, ils répondent toujours présents. Ça a aussi son côté positif de travailler avec ces élèves-là. Moi, j'adore. Et puis voilà, arrivé en SECPA, j'ai essayé de mettre en place la même séquence, vraiment la même séquence pédagogique. J'avais beaucoup travaillé dessus, c'était ma séquence de concours. Et j'arrive à la première question, parce que c'était vraiment l'idée d'une séquence comme ça, c'est que les élèves se créent leur propre questionnement et y répondent eux-mêmes. Et moi, je suis là en tant que guide, en tant qu'animateur, en tant que créateur de chemin, mais discrètement. Et donc, je pose la question, qu'est-ce que vous voulez savoir sur les volcans ? Et là, il n'y a rien qui ressort. Ils veulent savoir rien sur les volcans. Il n'y a pas un doigt qui se lève. Et bon, c'était honnête de leur part, en fait. Ils ne veulent rien savoir sur les volcans. À partir de là, on est obligé de remettre en question certaines convictions pédagogiques. Parce que le fait de mettre en place une pédagogie freinée, ça veut dire mettre l'élève en situation d'apprentissage, ça veut dire un peu lui donner les clés. Mais s'il n'a pas envie de conduire, s'il n'a pas envie d'avancer, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On abandonne ? Ou alors, on va essayer de l'accompagner sur le chemin, on va essayer de renier un peu ses convictions pédagogiques, d'avoir un peu plus de cours transmissifs où on parle et l'autre écoute. Et voilà, ça, c'est pas ce qui me plaît particulièrement. Moi, c'est pas ma pédagogie de prédilection, mais effectivement, j'ai été poussé à remettre en question certaines de mes convictions pédagogiques. Aujourd'hui, je pense que l'autonomie, c'est quelque chose à laquelle on doit absolument arriver, c'est quelque chose qu'on doit cultiver, mais ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui reste à développer chez les élèves, à cultiver. Comme le dit Bernard Lahir, il le disait déjà il y a quelques années, la pédagogie de l'autonomie, c'est un luxe. C'est un luxe, en fait. C'est un luxe qu'on peut se permettre avec certains élèves qui ont déjà les dispositions pour avancer, pour s'épanouir dans une pédagogie comme ça. Mais on ne peut pas se le permettre avec des élèves qui ne sont pas autonomes, à qui on n'a pas encore appris, à qui on n'a pas encore transmis ces dispositions.
Alors, il y a un autre sujet qui fait beaucoup débattre, c'est la question de l'autorité. Mmh. Là aussi, on vient de le dire, les enfants, on sait que pas, c'est pas des violents toujours. Mais enfin, ils sont quand même agités, dissipés, problèmes de concentration, avec beaucoup de parcours aussi personnels, troubles du comportement parfois, problèmes familiaux, problèmes scolaires. Mmh. L'autorité, au départ, vous avez cherché un petit peu le bon endroit où il fallait mettre le curseur.
Voilà, c'est une question de curseur, en fait. Donc moi, je suis arrivé avec la volonté tellement grande de m'extraire de l'autoritarisme que j'ai bien observé quand j'étais écolier moi-même. On en a parlé au début de l'émission, que finalement j'ai rompu avec l'autorité. C'est-à-dire que j'arrive face à ces élèves-là qui cherchent en fait à toujours se confronter au cadre, à tester les limites du professeur. Et je me rappelle de cet élève dont je parle, elle s'appelle Sarah Lastar dans le livre, parce que la première fois qu'elle s'est présentée à moi, elle s'est présentée en tant que star, donc je respecte cette... et donc cette élève-là, elle est rentrée, elle s'est assise, et puis elle a mis son pied sur la chaise d'à côté. Et là, je me suis posé une question, est-ce que je vais la laisser tranquille pour montrer que, voilà, écoute... tu apprends comme tu veux, après tout, en quoi est-ce que ça me dérange, la chaise est inoccupée, alors vas-y, mets-y ton pied pour me montrer un peu bienveillant, pour lui dire que les limites qu'elle cherche à tester n'existent pas, donc elle peut se concentrer sur l'apprentissage. Ou alors, je romps un peu ce lien de confiance, en tout cas c'est ce que je pensais que j'allais faire en lui disant d'enlever le pied. Et... ben voilà, ma première réponse à cette question, c'était de la laisser tranquille. C'était de la laisser tranquille. En fait, mon idée, c'était pourvu que ces élèves travaillent, pourvu qu'ils fassent les tâches que je demande. Et pour ça, j'étais prêt à sacrifier mon confort, j'étais prêt à laisser le bruit, à laisser les élèves se lever, faire absolument tout ce qu'ils voulaient, parce que je voulais me montrer extrêmement bienveillant. Je voulais leur montrer par des actes vraiment que j'étais là pour leur bien, pour leur épanouissement personnel.
Et ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché de leur propre aveu. Parce que je me rappelle, c'est encore venu d'une élève qui m'a dit « Monsieur, vous êtes trop gentil. Vous êtes trop gentil. » En fait, il y avait tellement de bruit dans la classe que ça devenait pénible pour absolument tout le monde. Et ces élèves-là ont essayé de me faire comprendre que c'était pas leur rendre service que de les laisser faire ce qu'ils voulaient, que ça marchait pas comme ça, que finalement instaurer un cadre sécurisant, c'était bien pour tout le monde, pas que pour moi, et que c'était pas aller à l'encontre de la bienveillance, que c'était pas finalement céder à une forme d'autoritarisme, que c'était finalement juste incarner une forme d'autorité, même si moi-même j'ai du mal avec ce concept, mais voilà, j'ai appris à me réconcilier, oui, avec l'autorité, parce que je me suis rendu compte que ça pouvait aussi avoir des effets positifs si il y a un cadre voilà, bien clair pour tout le monde, et surtout si il y a l'apport de l'empathie, un autre concept qui m'est très cher.
Parce que là, soyons clairs, pour vous, par contre, il faut absolument exclure en éduquant l'humiliation, la crainte, la violence, et vous dénoncez finalement la perversité du système éducatif français qui consiste à plus à classer les jeunes qu'à les encourager à progresser, quel que soit leur niveau au départ.
Oui, je pense qu'on en est là aujourd'hui. Je pense que... il suffit de finalement interroger soit les élèves qui sont en fin de scolarité, qui ont connu énormément d'échecs, soit ceux qui ont carrément quitté le parcours scolaire, leur demander comment est-ce qu'ils ont vécu cette scolarité, eux qui n'avaient pas du tout des facilités, et ils vous répondront qu'il y a eu de l'humiliation. Et c'est, voilà, quand ça revient tellement souvent, dans tellement de bouches, on ne peut... que croire, en fait, ces témoignages. On est obligé de croire ces témoignages et d'y répondre.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Comme de tradition dans l'émission, on va écouter une chanson que notre invité a choisie et on va écouter Nina Simone.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love,
ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends.
Je n'ai pas eu de maison, je n'ai pas eu de chaussures, je n'ai pas eu d'argent, je n'ai pas eu de cours. Une chanson en fait dont vous parlez dans Les Incasables, et c'est un moment assez émouvant d'ailleurs, et qui est devenu un symbole pour vous.
C'est en fait c'est un métier très difficile hein, d'être en SECPA au quotidien, parce qu'on est face au déterminisme social, on est face à des grandes souffrances, on est face à l'échec. On voit des élèves qui ont beaucoup de mal à progresser, parfois ne progressent pas, parfois régressent aussi. Et dans tout ça, il faut trouver du positif pour avancer. Et ce positif, c'est ce que j'appelle les éclaircies dans le livre. Ce sont des moments de grâce. Ce sont des moments qui se passent bien. Et parmi ces moments, il y a la fois où j'ai débuté ma séquence sur le thème de l'esclavage avec cette chanson de Nina Simone. J'ai été extrêmement surpris par le calme, l'écoute, ce ton vraiment solennel qui s'est emparé de toute la classe. C'était une classe hyper vivante. Et la voix de Nina Simone a vraiment fait taire tout le monde. On n'entendait plus ni le bruit des bavardages, ni celui des blousons, ni celui des trousses qui se ferment, des stylos qui tombent. Il y avait juste la voix de Nina Simone.
Il y a des choses quand même qui sont très, très dures hein, dans ce que vous racontez, dans ce que vous reflétez. C'est la réalité avec l'école qui rajoute au poids de l'échec celui de la culpabilité, avec L'impuissance, ce que vous appelez l'impuissance apprise aussi, c'est pas un terme que vous avez repris.
L'impuissance apprise, pour moi, c'est un concept qui est fondamental dans l'échec scolaire, dans la grande difficulté scolaire. Parce que, en fait, les élèves qui arrivent en section d'enseignement général et professionnel adapté, ce sont des élèves qui ont connu tellement d'échecs qu'ils ne voient plus le lien qui peut exister entre les efforts qu'ils vont fournir et les résultats qu'ils peuvent obtenir. Et en fait, cette répétition d'échecs, ce lien qui se perd, ça crée ce qu'on appelle de l'impuissance apprise. C'est quelque chose dont parle beaucoup d'ouvrages de psychologie, et c'est quelque chose que j'observe au quotidien. Lorsque je distribue une tâche à faire, un exercice, quelque chose à un élève, qu'il me dit, sans même avoir regardé la feuille, que c'est trop dur, qu'il n'y arrivera pas, ou qu'il n'essaye même pas, en fait, sans qu'il me dise rien du tout. Parfois, vous savez, je distribue la feuille et puis il ne regarde même pas. Il n'a pas d'explication par rapport à ça. C'est juste, non, pas aujourd'hui, laisse-moi tranquille. Et ça, c'est de l'impuissance apprise. Parce que cet élève-là, il se dit inconsciemment ou consciemment que même s'il s'investit dans cette tâche, il n'y arrivera pas. Alors à quoi bon ? Et donc, ben, voilà, le but, un des objectifs qu'on est professeur en SECPA, c'est de reconstruire ce lien. Mais ça ne se fait pas facilement. C'est-à-dire, ce n'est pas en distribuant une tâche super simple à faire et en disant à l'élève, ben voilà, regarde, tu as réussi, qu'on va y parvenir. Parce que les élèves savent aussi qu'on se fout de leur gueule, pardonnez-moi de l'expression. Ils savent que quand on leur donne un travail de CE1, ils vont vous dire, mais ça, ma petite sœur, elle le fait à l'école primaire. Là, c'est insultant de nous distribuer ça. Donc, il faut un travail qui soit en même temps un challenge, mais qui soit un challenge qui peut être réussi par les élèves. Et ça, c'est cette jauge, en fait, ce curseur, il est extrêmement délicat à trouver.
Et là, pour vous, il faut tous autoriser, par exemple, au moment où vous voulez les initier à Molière, et vous réécrivez la pièce pour qu'elle soit accessible.
Voilà, mais là, je crois qu'on est en plein dans une polémique actuellement, parce qu'il y a des collègues qui ont osé, bande de fous, réécrire Molière, réécrire le médecin malgré lui. Moi, voilà, j'ai fait ça. Alors, je suis pas allé jusqu'à changer les personnages, faire parler des youtubeurs, etc. Moi, j'ai pris le texte intégral et puis j'ai coupé quelques parties pour le rendre plus accessible. J'ai changé parfois quelques syntaxes. En fait, j'ai simplifié le texte comme il s'est de lui-même simplifié au cours des siècles. Hein. Finalement, si on prend le texte vraiment brut, qui a lu Molière dans sa version la plus originale aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai coupé quelques parties. J'ai utilisé une police d'écriture adaptée. C'est la police Handica qui est lisible aussi par les dyslexiques, par ceux qui galèrent. Et puis voilà, j'ai distribué ça aux élèves et ça a bien fonctionné. C'est quelque chose que j'utilise chaque année depuis, parce que c'était vraiment un investissement de réécrire Molière. Mais du coup, c'est un investissement rentable, parce que ben là, c'est un pur hasard, vous m'en parliez, mais ce matin même, j'ai réutilisé cette pièce que j'avais réécrite il y a 3 ans pour travailler sur Molière avec les élèves. Et ils aiment bien, en fait. Ils aiment bien. Je commence par leur dire que c'est une pièce qui est difficile à comprendre, parce qu'ils aiment bien. Ils aiment bien savoir qu'il y a du challenge. Je leur dis que même les générales, parce que voilà, c'est une comparaison, mais incessante avec les générales. Dès que je distribue quelque chose, est-ce que les générales font ça? Parce qu'il y a ce complexe. Et donc, j'insiste bien sur le fait que c'est une œuvre qui est étudiée par les classes générales et que ben voilà, je leur fais confiance pour s'impliquer dedans et pour la comprendre, pour se l'approprier. Et je suis assez content, en fait.
Et par moments, malgré tout, vous racontez aussi le découragement qui vous rattrape. Je vous cite, « J'ai souvent l'impression d'être plus utile en manifestant dans la rue contre la casse du service public orchestrée par les politiques néolibérales qu'en enseignant dans ma classe. »
Oui, c'est en fait l'impuissance apprise dont on a parlé, c'est contagieux, ça peut s'emparer du professeur. Et ça arrive souvent parce que, voilà, au quotidien, on arrive et, comme j'ai dit tout à l'heure, les progrès ne sont pas toujours visibles. Et parfois, ils ne sont vraiment pas là. Ou alors, parfois aussi, on est dans une période un peu défaitiste. Il y a des progrès, il y a des éclaircies, mais on ne les voit pas. Tout peut arriver. Et donc, bien sûr, il peut y avoir il peut y avoir cette impuissance qui se crée. Et voilà, encore une fois, l'outil, l'arme pour répondre à ça, ce sont les petites victoires. Ce sont les victoires sur le très court terme. C'est, par exemple, l'élève qui se rappelle qu'on a étudié un poème de Baudelaire il y a 3 mois et qui fait une réflexion par rapport à ça. Et là, je suis surpris, je suis étonné, parce que moi-même, j'ai fait étudier ce poème, mais pas pour le comprendre, en fait. C'était plutôt comme prétexte pour étudier le champ lexical. C'était le champ lexical de la mer avec le poème de l'albatros. Et j'ai cet élève qui maîtrise à peine le français, qui est primo arrivant et qui me dit, en parlant d'un personnage, d'un roman, celui de Nos étoiles contraires, il me dit, ah, mais c'est comme l'albatros, il est très beau de loin, mais quand on s'approche, il est laid. Alors voilà, c'est une compréhension en gros du poème, mais c'est une compréhension, et c'est un élève qui a retenu, c'est une petite victoire, c'est quelque chose qui me fait du bien. C'est quelque chose qui me fait tenir.
Et en même temps, vous le dites, l'école n'est pas une île isolée dans un désert, enfin un oasis plutôt. Elle est intégrée dans une société qui fait des choix politiques. Bon, actuellement, par exemple, on le savait déjà, mais on se rend compte que beaucoup de postes vont être supprimés à la rentrée. La rentrée prochaine de 21, malgré la pandémie, malgré tout le discours du gouvernement, de l'État sur le caractère essentiel de l'école dans le moment qui est le nôtre, ben voilà, dans les collèges et les lycées, et dans notre académie en particulier, au total en France, 1883 postes en moins à l'horizon, ouais. Y compris dans les sections, y compris dans les quartiers prioritaires.
Bien sûr, rien n'échappe à cette politique néolibérale. Je crois qu'on est à 70 postes supprimés seulement le second degré cette année. J'ai lu une statistique pas plus tard que ce matin, mais entre 2007 et 2018, il y a 15% d'enseignants en moins dans le second degré. C'est absolument dramatique, on assiste à une casse de l'école de la République et qui doit vraiment nous interroger, même si elle est noyée par des polémiques absurdes qui viennent s'ajouter les unes sur les autres pour détourner notre regard de ce qui est en train de se passer.
Vous pensez, quand on regarde votre, parce qu'on l'a dit au tout départ, hein, vous tweetez, le séparatisme par exemple, la loi qui a en ce moment à discuter, fait l'objet de vos réflexions, là, je sais plus, le 11 février, vous disiez, le gouvernement invente sa variante, toujours attribuée au séparatisme islamiste, ce qui peut s'expliquer par un tas d'autres raisons. Enfin, c'est ça, c'est partie de ces polémiques pour
moi,
vous.
Moi, j'essaie vraiment de rester dans mon domaine, qui est l'école, la pédagogie, etc. Mais en fait, les questions d'actualité touchent bien souvent à l'école, effleurent l'école. La loi sur le séparatisme, on parlait de ces filles qu'on empêche d'aller à la piscine, enfin qui ne veulent pas nager, et donc il y avait, je crois, un extrait, un projet de loi ou quelque chose pour répondre à ce phénomène d'allergie au chlore, de certificats médicaux d'allergie au chlore, alors que voilà, moi au quotidien, écoutez, j'ai déjà fait des cours de natation à certaines classes, j'ai déjà eu des garçons et des filles qui ont inventé des maux de tête. Jamais eu d'allergie au chlore, mais ouais, des maladies soudaines, ça arrive. Moi-même, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais en situation d'obésité. Donc, les maux de tête le mardi matin, ça m'arrivait souvent. Voilà, j'ai jamais eu l'idée, et je le regrette, d'avoir une allergie au chlore. Là, il vient de me donner l'idée, mais c'est trop tard. J'aurais aimé avoir ça quand je faisais pas loin de 100 kilos en quatrième. Donc voilà, ça arrive des fois que les questions d'actualité touchent à l'école, et donc ça me fait réagir, même si voilà, je me suis imposé quand même sur Twitter une ligne de conduite qui est celle de rester dans mon domaine, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait quand même se protéger. C'est quelque chose qui peut vraiment vous bouffer la vie, ce réseau social Twitter, c'est très particulier. Et donc j'ai appris à mes dépens qu'il fallait s'exprimer sur les choses qu'on maîtrise à peu près, sur son propre domaine de compétences. Ça facilite vraiment la survie, ça aide à faire de ce réseau un espace d'enrichissement, un espace agréable, de militantisme, de rire, d'un peu tout en fait. Donc voilà, bien sûr, quand je parle de polémiques absurdes qui s'amoncellent pour détourner notre regard, ça en fait partie. Il y a la chasse actuellement aux islamo-gauchistes à l'université, ça aussi, ça en fait partie. Tout ça, ça intervient à un moment où on ferme de plus en plus de postes. Et tout ça, ça me questionne. Moi, j'aimerais vraiment qu'on remette au devant de la scène, qu'on parle de ces postes qu'on est en train de supprimer, qu'on parle des effectifs de classe, qu'on parle des inégalités scolaires. Parce que c'est ça qui fait du mal à l'école actuellement. Si on veut protéger l'école de la République, c'est ça, en fait, qu'on doit discuter.
Vous ne craignez pas de dire les choses directement dans votre bouquin. Vous dites, en SECPA, on trouve beaucoup d'enfants d'ouvriers, de chômeurs, de personnes handicapées, et aussi plus de Noirs, d'Arabes et de Gitans que de Blancs. Ça, c'est dans les milieux progressistes, par exemple, c'est des choses qui se disent pas forcément, on n'ose pas trop, on a peur d'eux.
C'est vrai.
Pour vous, il faut dire le réel, il faut dire les choses.
D'où la nécessité de vraiment rester terre à terre. Moi, c'est quelque chose qui me saute aux yeux. Alors, bien sûr, il y a cet universalisme républicain qui nous mène à voir tout le monde de la même couleur, à être, colorblind. Ça peut avoir ses vertus, sauf que là, ne pas voir les couleurs, ça nous empêche de voir une inégalité qui se crée par rapport aux élèves de SECPA. Voilà, moi, si j'ai que des Arabes, des Noirs, des Gitans, etc., c'est quelque chose qui a souligné. Il me semble que c'est quelque chose qui est très parlant. Pourquoi est-ce que ce sont ces élèves-là qui se retrouvent dans une voie professionnalisante? Pourquoi est-ce que ce sont ces élèves-là qui, font des études beaucoup plus courtes? Pourquoi ce sont eux qui doivent remettre en question leurs rêves très tôt? Posons-nous la question au moins. Et puis, les réponses sont déjà là, en fait. Moi, j'oriente très souvent dans le livre vers des ouvrages de sociologie, notamment le dernier qui a été très marquant pour moi, c'est « Enfance de classe », qui a été dirigé par Bernard Lahire et que j'ai trouvé absolument incroyable, en fait, tellement enrichissant parce qu'il décrit toutes les étapes, tous les mécanismes qui font que le déterminisme social est là. C'est un ouvrage qui rentre en profondeur dans cette question et c'est un ouvrage qui voulait partir de portraits à chaque fois d'élèves, d'enfants, pour donner à voir et à ressentir. Et cet objectif-là, je l'ai pris, je l'ai cité dans mon livre, je me le suis approprié. Moi aussi, je veux donner à voir et à ressentir mon expérience de personne de terrain, mon expérience d'enseignant en SECPA.
Et ça fait du bien parce que Bernard Lahire, pas vu à la télé, sur les chaînes d'infos en continu, on a plutôt Finky Report et des autres. Et alors, il y a en particulier un discours qui vous énerve pas mal sur celui, le discours de « c'était mieux avant », l'échec scolaire, tout fout le camp, quoi, l'école d'autrefois. Alors ça, non. Pour vous, l'échec scolaire, c'est pas une histoire de maintenant.
Voilà, on parlait du fait de rester dans son domaine. Moi, si je reste dans mon domaine, celui de l'école, celui des élèves à besoins éducatifs particuliers, remontons quelques années en arrière, allons-y. Allons au moment où on a déclaré que l'école, que la scolarité, en tout cas que l'instruction était obligatoire. Remontons aux lois de Jules Ferry. Qu'est-ce qu'on a fait au lendemain de ces lois? Quand on s'est rendu compte qu'il y avait des élèves dont on doutait encore de l'éducabilité. Ces élèves-là, ces enfants, parce qu'on ne peut même pas les appeler des élèves, on a essayé de les séparer du reste. On a essayé de, grâce à une échelle métrique d'intelligence qui a été construite par un psychologue qui s'appelle Alfred Binet, et c'était pas son but, lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué quand même, je tiens à le dire parce qu'on m'a critiqué sur ça, et c'est vrai, c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à la question de ces élèves à besoins éducatifs particuliers. Mais en fait, on a mesuré leur intelligence avec des tests absolument pas pertinents. En fait, il fallait par exemple un exercice où il fallait entourer la femme la plus jolie. Et à partir de là, on décidait si un élève était éducable ou pas. Et donc celui qui n'était pas éducable, on lui donnait une étiquette. Il y avait les ingouvernables, il y avait les incasables, il y avait les idiots, il y avait les idiots d'asile, les idiots d'hospice, ceux qui pouvaient apprendre quand même quelque chose et ceux qui ne pouvaient absolument rien apprendre. Ceux-là, on les foutait loin, dans la campagne, là où ça ne coûte pas cher de les garder. On les faisait travailler dès que possible. Et c'était ça, en fait, les élèves à besoins éducatifs particuliers. On ne les appelait pas comme ça. On les appelait les idiots ou les incasables, les ingouvernables. Et donc, non. Non, l'école, ce n'était pas mieux avant. En tout cas, si on regarde ce qui me concerne le plus, là où je maîtrise à peu près quelque chose, ben non, ce n'était pas mieux.
Ce n'était pas mieux. Et est-ce qu'on a progressé malgré tout Les SECPA, alors, c'était des... Vous en faites l'historique, mais ça reste, vous l'expliquez, un endroit où souvent, pour beaucoup de monde, c'est la fin, c'est pas le début de quelque chose. Mais pour autant, ce n'est plus les sections de relégation que ça a été autrefois.
Exactement, là, c'est pas satisfaisant ce qui se fait actuellement. Aujourd'hui, un élève qui rentre en SECPA, il y a seulement 33% des élèves qui rentrent en SECPA qui ressortent de leur scolarité avec un diplôme. Donc la majorité finissent leur scolarité sans le moindre diplôme, pas même le brevet. Donc c'est pas satisfaisant. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la SECPA, c'est une franche réussite et qu'on doit continuer les choses comme on les fait maintenant. Mais ça n'exclut pas aussi de dire qu'il y a eu du progrès avec ces élèves-là. Il y a eu du progrès, on leur donne quand même un peu plus de considération. On considère que tout le monde est éducable. Ça, je pense que, en tout cas, dans le milieu des sciences de l'éducation, aujourd'hui, personne, je pense, n'oserait avouer ouvertement qu'il y a des enfants qui ne sont pas du tout éducables et qu'on doit juste éloigner du reste. Je pense qu'il y a des personnes qui le pensent très certainement, mais ces personnes-là auraient honte de le dire dans l'espace public. Et ça, c'est une réussite. Il faut que ces gens-là aient honte. Au moins, on ne peut pas les empêcher de penser ce qu'ils pensent, mais au moins qu'ils n'osent pas le dire à haute voix. C'est déjà ça.
Alors vous avez aussi parfois des élèves qui sont dans des situations sociales très, très, très compliquées. Hein. Je pense à Caïs dans le livre « Pupille de l'État », qui bénéficie de l'aide sociale à l'enfance. Et vous rappelez que 25% des SDF sont des anciens de l'ASE. Et ça ne bouge pas beaucoup?
Non, ça ne bouge pas beaucoup. Pour ça, je me réfère à quelqu'un qui travaille beaucoup sur le sujet, qu'on voit actuellement un peu dans les médias, qui mériterait d'être encore plus vu, écouté, observé. C'est Lies Loufoque qui a écrit « L'enfer des foyers ». C'est quelqu'un qui nous renseigne de l'intérieur, parce que voilà, encore une fois, c'est quelqu'un du terrain qui a vécu dans les foyers, qui raconte comment c'est. Et c'est chez lui, c'est dans cet ouvrage que j'ai trouvé ce chiffre absolument dingue de 25% des sans-domicile fixe qui sont des anciens de l'ASE. C'est encore une fois un chiffre qui pourrait l'étaler aujourd'hui devant un enfant qui est entre les mains de l'ASE. Moi j'en ai des élèves comme ça et j'oserais pas leur étaler les règles du jeu, leur dire que voilà, 25% des sans-domicile fixe qu'on voit sont des anciens du foyer qu'ils fréquentent. C'est pour ça aussi que je me pose des questions sur est-ce qu'il faut dire les règles du jeu ou pas.
Alors faire tenir à l'école sa promesse républicaine d'égalité, on l'a bien compris, hein, c'est votre carburant, c'est l'objectif, c'est le sens.
C'est ça. Moi, je suis dans une stratégie de prise à la lettre des valeurs républicaines. Donc je les prends à la lettre et je veux qu'elles soient réellement appliquées.
Et c'est pas simple parce que alors il y a le quartier, hein, on le disait là sur la classe dont vous racontez les 4 années passées avec elle. C'est un quartier en particulier à Marseille, Herbel, donc qui est à la fois un cocon.
Ouais.
Mais un lieu d'enfermement aussi. Et l'école, c'est le moment, une rare possibilité d'ouvrir la porte un petit peu, là, les fenêtres.
Ouais. Alors Herbel, on ne peut pas dire que ce soit le pire quartier économiquement à Marseille. C'est quand même un quartier qui est desservi. Il y a le tramway qui passe par là-bas. Et pourtant, quand j'ai fait ma première sortie scolaire avec ces élèves-là, on avait à peine fait quelques kilomètres, que j'avais une élève qui me demandait est-ce qu'on était déjà sorti de la France. Ça m'a beaucoup questionné. Au début, ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça mignon. Et puis, j'ai vu aussi le côté grave qu'il y a derrière ça. C'est que cet élève n'avait jamais fait autant de kilomètres. Il s'agissait d'une vingtaine, en fait. On allait à la Sainte-Victoire. Et donc, pour elle, c'était déjà sortir loin de, de son quotidien. Et elle croyait que c'était hors de la France. Et donc, ça montre la nécessité d'ouvrir les horizons et de faire de l'école un espace qui est ouvert vers l'extérieur.
Et vous croyez, vous mesurez le pouvoir de la littérature? Je pense à Antigone.
Antigone, ça reste le plus beau souvenir de ma carrière. Voilà, c'était un moment où justement je me sentais défaitiste, où j'avais cette impuissance qui s'emparait de moi. J'ai un collègue, un ami comédien qui me dit « Voilà, moi je suis de passage à Marseille, est-ce que ça te dirait qu'on travaille sur Antigone avec les élèves ?» Et moi, je doutais vraiment de la possibilité de travailler sur le Antigone, même de Jean Anouilh, avec mes élèves de SECPA. Et puis finalement, je me suis laissé entraîner là-dedans. On a parlé d'Antigone, j'ai simplifié un peu encore une fois. On a bossé sur ça et c'était absolument magique ce qui s'est produit parce que les élèves ont incarné Antigone. Le nom d'Antigone, c'est devenu le nom des élèves. On ne pouvait plus savoir si... l'élève qui récitait le monologue d'Antigone était elle-même ou si elle jouait un rôle, en fait. C'est, les combats se mélangeaient et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Et puis, il y a eu cette sortie dans la pièce de théâtre pour aller voir Molière, ce que jouait mon ami comédien. Et puis, sur la route du théâtre, le théâtre du gymnase, on a... rencontrer une dame en fait qui trouvait que mes élèves faisaient beaucoup trop de bruit, alors que voilà, c'était des ados, ils faisaient absolument pas moi je trouvais pas que c'était bruyant, donc elle les a engueulés, moi j'étais pas d'accord. Il y a une autre vieille dame qui a pris leur défense et qui leur a dit qu'elles étaient magnifiques à ces élèves qui se faisaient engueuler. Et donc la discussion s'est enclenchée. Elle nous a demandé où est-ce qu'on allait. Moi j'intervenais pas du tout, je voyais juste deux générations que tout sépare parler. Et donc mes élèves ont parlé d'Antigone. Et là, la vieille dame, elle a dit, mais je connais si bien Antigone, je l'ai interprété, j'adore Antigone et j'adore On ne badine pas avec l'amour. Et je voyais, voilà, des générations tellement différentes, tellement éloignées, qui parlaient d'un thème commun, en fait. C'était Antigone, c'était le théâtre, c'était le patrimoine culturel. Et je crois que c'est à ça que sert la culture, à nous réunir.
Alors sur votre compte Twitter, lundi 15 à 17h, vous avez posté « Dernière semaine avant les vacances, âge 28 ans, ouais, ressenti ouais. 74
». C'est toujours le même état. Là. Il me reste jeudi, vendredi. Et là, c'est particulièrement dur parce qu'on en a parlé en coulisses avec le protocole sanitaire à faire appliquer, le fait de devoir répéter littéralement 300 fois « le masque, c'est au-dessus du nez ». Ce genre de choses, mais voilà, ça fait qu'on est extrêmement fatigué. Je suis loin d'être le seul, mais voilà. Le
et positif, malgré tout, c'est que c'est bientôt à la fin des Incasables, on vous sent hésiter hein, sur SECPA, pas SECPA, est-ce que... et puis vous quittez donc la classe et l'école dont vous parlez. Et puis là, ce jour, on l'a dit, vous êtes à nouveau en SECPA. Alors maintenant, c'est Aboubacar, Alaa, Minès, Marwa, Mathias, Samuel Yanis. Donc, vous avez rempilé, vous n'avez pas perdu alors la foi. Je ne pense pas que ça soit un terme une histoire de croyance, mais vous êtes toujours
peut-être
motivé.
Peut-être pas de croyance, mais ouais, une histoire de passion, une histoire de flamme. La SECPA, c'est très dur à quitter pour plusieurs raisons. Et je crois qu'il y a des raisons qui sont insondables. Je crois qu'il y a quelque chose qui relève de l'ego, le fait de vouloir peser sur des trajectoires. Le fait de vouloir être là, en fait, de se sentir plus ou moins utile. Et je me sens utile en SECPA. Donc, ça fait que c'est difficile de partir de là. Donc, voilà. Là, je crois que vous avez trouvé ces prénoms dans un podcast qu'on a fait avec
sur nos amis
vos confrères de Marsactu. Voilà, c'était une super expérience. J'ai adoré faire. Donc, voilà. Allez, vous aussi, chers auditeurs, écoutez Les Petits Marseillais. On a posté ça sur Vimeo. C'est un super podcast fait par les élèves. Voilà, c'est le genre d'éclaircie dont je parle dans le livre.
Rachid Zeroukim, merci. Et merci, on vous conseille fortement à lire Les Incasables, à la fois des idées et des témoignages importants.
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et pour l'écoute.